Ils ont un comportement social, ils entretiennent des liens d'amitié, ils communiquent entre eux et viennent au secours des plus faibles, mais ils tombent également malades, sont sensibles aux variations du temps et aux changements climatiques. Les arbres se révèlent comme jamais. Dans un ouvrage qui est un best-seller dans le monde entier, son auteur, le forestier allemand Peter Vollenben, qui est actuellement en France, pour présenter son livre, donc La vie secrète des arbres, qui sort aux éditions Les Arènes. Il est mon invité dans un instant et il répondra en direct à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Des taches et des pandas à la une de la science aujourd'hui.
Oui, le panda, comme le zèbre par exemple, sont des animaux emblématiques en grande partie à cause de leur pelage si caractéristique. On vous explique la fonction de chaque tache du panda géant avec le passionné et passionnant Jérôme Pouille.
Et puis, comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de Sciences Improbables de Pierre Barthélémy consacrée aujourd'hui au téléphone portable. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La vie secrète des arbres, c'est donc un livre qui arrive en France aux éditions Les Arènes et c'est le dossier de notre émission avec le forestier allemand Peter Vollenben. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Vous racontez dans votre ouvrage que les arbres sont doués de certaines formes d'intelligence dans les stratégies qu'ils adoptent pour survivre ou pour vivre en société. Est-ce que pour autant on pourrait aller jusqu'à dire que les arbres possèdent un cerveau ?
Ob sie ein Gehirn haben, das wissen wir nicht, aber
nous ne savons pas s'ils ont un cerveau. Nous savons qu'ils peuvent compter. Nous savons qu'ils ont des souvenirs. Et nous savons qu'ils peuvent communiquer entre eux.
Et ça fait déjà beaucoup. Et on va découvrir justement toutes ces stratégies mises au point par les arbres telles que vous les dévoilez dans cet ouvrage. Les questions des auditeurs arrivent déjà d'ailleurs sur le site de l'émission. Je vous les transmets dans un instant sur franceinter.fr. Quatre pattes noires, un corps tout blanc, une touche de noir à nouveau sur les oreilles et autour des yeux. Voici le pelage caractéristique du panda. Pourquoi tant de contrastes et pourquoi ces zones en particulier? Eh bien, une équipe de biologistes animaliers et de généticiens propose aujourd'hui une explication exhaustive des fonctions de ce pelage caractéristique du panda géant. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Jérôme Pouille. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Axel.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste et passionné de panda, vous êtes d'ailleurs le créateur et administrateur du site panda.fr. Alors pour résumer cette étude, Jérôme Pouille, on pourrait dire que le pelage du panda sert à la fois à se cacher et à être reconnu dans le même temps, ça vous semble exact ou pas ?
Oui, alors c'est les conclusions en effet de l'étude qui s'est penchée sur cette particularité de la bicoloration du panda et qui en conclut finalement que le blanc, que ça soit le corps et la tête, ont une fonction de camouflage, principalement par rapport à un environnement hivernal et en particulier recouvert de neige. Et par contre, pour les taches noires, l'étude fait la dissociation entre la partie corps et la partie tête. Le corps aurait aussi un rôle de camouflage, alors cette fois-ci plutôt pour se confondre avec les ombres dans l'environnement. Et pour la partie tête, les taches noires, oreilles et yeux. Donc pour les oreilles, les auteurs pensent que ces taches noires auraient un rôle finalement de communication pour éloigner d'éventuels prédateurs, avec un rôle de férocité amplifiée. Et pour la partie yeux, ça serait plutôt pour une reconnaissance intraspécifique, donc entre les différents individus panda au sein de leur habitat. Donc c'est quelque chose qui vient confirmer finalement une hypothèse que la plupart des scientifiques avaient déjà et qu'on retrouve également chez d'autres espèces, c'est que le pelage, en effet, il a à la fois un rôle de camouflage dans l'environnement et puis un rôle plus social, on va dire, au travers de la communication, que ce soit envers les autres animaux ou envers des conspécifiques.
Alors, quand on est chercheur et qu'on a envie de savoir à quoi sert la tâche d'un panda, comment on fait, comment on s'y prend ?
Alors, c'est pas simple parce qu'il est très difficile d'aller étudier ça dans le milieu naturel. Donc, l'équipe américaine, en fait, a utilisé une approche comparative entre les différentes espèces de carnivores. Donc, en ayant pour postulat que l'évolution, sur la base de fonctions similaires, aurait conduit à des couleurs et des marques similaires. Donc, en fait, ils ont regardé chez d'autres carnivores et y compris chez d'autres ours, quelle tâche avait quelle fonction. Et en fonction de ça, ils en ont déduit quelle pourrait être la fonction des tâches du panda. Donc c'est vraiment une approche comparative, donc elle peut toujours être discutée, mais c'est la seule approche qu'on pouvait avoir raisonnablement.
Alors ça semble étrange qu'un pelage si contrasté, noir et blanc, puisse être aussi un outil de camouflage.
Oui, mais il faut bien se replacer dans le contexte de vie du panda géant, et pour être allé plusieurs fois dans son milieu naturel et même pour avoir vu un panda sauvage, il faut s'imaginer une forêt de type tropical avec des sous-bois de bambou, et il y a en permanence ce jeu d'ombre et de lumière, donc que ça soit l'été ou l'hiver, bon l'hiver il y a souvent la neige en plus, mais quand on voit des photos de pandas dans leur milieu naturel, bien souvent on pourrait s'imaginer, on voit immédiatement qu'ils se confondent avec la végétation et ce jeu d'ombre et de lumière. Et finalement, le panda, il a adopté ce pelage comme une sorte de compromis, hein, à la fois pour se confondre dans cette forêt tropicale, mais aussi dans des paysages plus hivernaux, avec de la neige.
Mais alors,
c'est vraiment une sorte de compromis.
Jérôme Pouille, de qui doit se cacher le panda? Alors, il a beaucoup de prédateurs ou pas?
Alors c'est la question, parce qu'en fait cette étude est conclue à un rôle de camouflage et puis un rôle de communication. Or le panda, pourquoi il devrait se camoufler? Parce qu'en fait on sait que le panda a très peu de prédateurs naturels. Si je mets de côté l'homme, le seul prédateur naturel qu'on lui connaisse, c'est la panthère des neiges, mais dans la réalité il se croise que très rarement, et elle est plutôt une menace pour le bébé panda. Donc bon, moi j'ai une question quand même, c'est quel est le rôle de se camoufler envers qui? Donc ça c'est le premier élément. Et puis après, d'un point de vue communication, ce qu'on sait depuis une vingtaine d'années, c'est que le panda est un animal solitaire, et il utilise du coup principalement la communication chimique et vocale. Et là, cette étude vient nous apporter un nouvel élément, c'est que l'identification grâce aux marques autour des yeux d'un individu, ça sous-entend qu'en effet les pandas puissent se croiser pour se reconnaître. Or, on pensait aujourd'hui que cette communication visuelle, elle était quasiment absente comme la plupart des espèces solitaires.
Et ces taches autour des yeux, alors il faut les voir comme une carte d'identité du panda?
Alors oui, elles sont vraiment caractéristiques à un panda donné, et on peut imaginer en effet qu'un panda puisse reconnaître un autre panda parmi d'autres sur la simple base de ses taches autour des yeux. Ça avait déjà été mis en évidence par une équipe de chercheurs et de vétérinaires du zoo de Vienne, qui avait confronté des pandas captifs à des formes d'yeux de d'autres pandas, et on s'était rendu compte en effet qu'ils étaient capables de faire la différence entre deux pandas et de garder cette image en mémoire pendant un certain temps.
Mais un pelage, c'est quand même un ensemble de tâches. Est-ce qu'on peut vraiment le résumer à une somme de caractéristiques qu'on peut associer à chaque tâche? La méthode vous semble bonne?
Alors, pour un départ d'étude, en effet, la méthode me semble bonne, d'analyser tâche par tâche quelle pourrait être la fonction remplie. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est d'analyser finalement cette bicoloration d'une manière plus globale, de rendu de l'espèce dans son milieu. J'ai même envie de coupler la couleur à la forme également. Et cet aspect camouflage et communication, à mon avis, se limite pas à une analyse en effet individuelle des tâches, mais plus à un rendu global de cette constellation finalement de couleurs sur son corps.
Alors justement, Jérôme Pouille, est-ce que la position des taches sur le pelage du panda change au cours de sa vie ou pas?
Alors la position des taches ne change pas, cependant, que ça soit pour les oreilles ou pour les taches noires autour des yeux, selon la posture que va adopter l'animal, selon l'image qu'il veut finalement laisser transparaître, ses oreilles et ses yeux pourront avoir une apparence un petit peu différente. Donc la tache autour des yeux, selon comment il plisse les yeux, selon comment il positionne sa tête, peut apparaître complètement différemment, même s'il s'agit du même animal. Et pareil, les oreilles, il peut les diriger un petit peu à sa guise, et elles peuvent avoir une apparence complètement différente selon la posture et le comportement.
Alors, une dernière question, peut-être plus large, sur la conservation du panda. Comment se portent les pandas en 2017?
Alors les pandas vont un petit peu mieux qu'il y a une dizaine d'années. Donc la Chine recense ses pandas sauvages et son habitat tous les 10 ans environ. Donc en 2015, il y a 2 ans, elle a publié les derniers résultats. il y a eu un effet bonne nouvelle parce que on a annoncé qu'il y avait plus de pandas dans le milieu naturel, ce qui est vrai, avec une superficie d'habitat qui est également plus grande. Cependant, moi, je ternis un petit peu cet effet bonne nouvelle par le fait que cette étude met aussi en évidence, finalement, que l'habitat du panda est plus fragmenté que 10 ans auparavant. Et même si on a quantitativement plus de pandas, aujourd'hui on a des populations de pandas qui sont qualitativement moins intéressantes, ou en tout cas qui pourraient, génétiquement parlant, être menacées à moyen terme, parce qu'on imagine bien que ces sous-populations, ces populations fragmentées, elles pourraient conduire à moyen terme à l'extinction d'espèces si ces individus peuvent pas se rencontrer entre eux, ou peuvent pas faire face à des catastrophes naturelles, par exemple.
Le problème est lié directement à la menace sur les forêts de bambou elles-mêmes?
Alors, la menace de la disparition de l'habitat, elle est un petit peu temporisée par le fait du statu quo en termes de superficie d'habitat. Mmh. Par contre, la menace qui demeure, c'est en effet la fragmentation de cet habitat.
Merci beaucoup Jérôme Pouille pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes le créateur du site panda.fr. Comment vous définissez d'ailleurs, Jérôme, vous qui êtes une sorte d'ambassadeur des pandas? Je crois que vous avez inventé un mot pour ça.
Oui, alors je suis passionné, mais aussi ambassadeur des pandas, et le terme employé était pambassadeur.
Voilà, ben c'est très joli, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, panda.fr.
Merci.
À bientôt Jérôme Pouille, au revoir. Merci Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, après le panda géant, voici l'éponge géante pour combattre les marées noires. Une équipe d'ingénieurs de l'Illinois vient de mettre au point une éponge réutilisable capable d'extraire le pétrole et les huiles en suspension dans l'eau. Faite d'une mousse de polyuréthane et de plastique expansé, elle est capable d'absorber près de 9 fois son poids en déchets pétroliers. Les expériences menées en simulateur de marée noire montrent que ces éponges sont plus efficaces que les matériaux absorbants à usage unique utilisés aujourd'hui. Ces éponges à huile pourraient permettre de réagir donc rapidement en cas de marée noire flottante. Seul inconnu pour le moment, leur efficacité en profondeur qui devrait être testée bientôt. En tout cas, la vidéo assez spectaculaire est à voir sur le Facebook de la Tête au Carré. L'ordinateur quantique est commercialisé d'ici 5 ans. Voici en tout cas la promesse annoncée hier et que va tenter de tenir le laboratoire Quantum AI de Google. Cette machine révolutionnaire et rendue théoriquement possible par la physique quantique est encore loin d'être prête. Le problème que rencontrent actuellement les constructeurs, c'est la nécessité d'isoler parfaitement le processeur du monde extérieur, sous peine justement de voir disparaître les effets quantiques tant recherchés. Nouvelle piste lancée par Google, donc créer des processeurs fonctionnant avec de faibles niveaux de perturbation, plutôt que de créer une isolation parfaite qui est apparemment trop complexe et trop coûteuse à obtenir. Et puis, privilégier le sexe à la maison serait bon pour votre carrière. Cette drôle de corrélation nous vient aussi des États-Unis, où un groupe de chercheurs s'est intéressé aux habitudes des travailleurs entre le bureau et la maison. Ils montrent que les employés vivant une relation stable avaient plus de réussite dans leur carrière, et d'autant plus s'ils avaient également des rapports réguliers avec leurs compagnes ou compagnons. Parmi les autres résultats notables, les chercheurs notent que lorsque le stress du travail s'immisce jusque dans le couple, l'activité sexuelle avait tendance à décliner. On vous raconte la vie secrète des arbres dans un instant. C'est le dossier de la Tête au Carré.
Do you see people being led by the righteous hand? Taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me, show me, show me, show me. Do you see people's lives being lost on the sacred land? In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Show me. Are free to stand up for themselves, and the promises made stop
gathering dust on the shelf. Show me. Show me. Show me. Show me. Well, I hear you out there when you say what you have to say. I know how you feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands, show me. Show me. Show me. Show me.
J'ai marché sur la canopée, j'ai exploré des kilomètres de sous-bois. À chaque instant, j'ai été émerveillé par la capacité des grands arbres à vivre immobile. Combien de fois ces êtres de bois ont mis au défi ma propre intelligence.
Extrait du film de Luc Jacquet, Il était une forêt, avec la voix à l'instant du biologiste Francis Allais. On parle d'un livre aujourd'hui qui est un best-seller. Il est d'abord sorti en Allemagne avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Il a été traduit dans 32 langues et il arrive enfin en France. C'est l'ouvrage donc La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, publié aux éditions Les Arènes. Et Peter Vollenben, vous êtes l'auteur de ce livre. Vous êtes notre invité cet après-midi. Vous êtes forestier en Allemagne où vous dirigez une forêt écologique près de Cologne. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les questions et les messages sur franceinter.fr. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, là, vous êtes devenu le forestier le plus célèbre du monde avec cet ouvrage. Est-ce que c'est le fait d'avoir anthropomorphisé la forêt qui explique justement que ce livre ait touché à ce point le grand public ?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Je ne crois pas.
Einfach, dass ich nur das übersetzt habe, was Wissenschaft schon seit 40
Jahren weiß. Je n'ai fait que traduire ce que la science savait déjà.
Und jeder Wissenschaftler hat sich auf einen ganz schmalen Ausschnitt spezialisiert. Das heißt, wir haben in der Gesamtheit.
Les scientifiques sont spécialisés sur le secteur bien précis.
Was dahinter steht. Und ich habe es einfach zusammengesetzt, das Puzzle.
Et moi, j'ai rassemblé un peu toutes ces connaissances.
Und ein wunderbares Wesen wie ein Elefant des Pflanzenreichs.
Und genauso wie wir alle wissen, dass l'arbre comme une sorte d'éléphant du règne végétal.
Genauso sollte man eigentlich auch wissen, was ein Baum macht. Und da helfe ich.
Et de la même façon qu'on sait comment un éléphant vit, il faudrait faire la même chose pour les arbres.
Mais dans votre travail d'écriture, vous avez quand même essayé de faire un gros boulot de vulgarisation, justement. Justement, pour essayer de nous raconter cette histoire de la forêt.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, wissenschaftliche Sprache ist so ein bisschen, ohne dass das Kritik sein soll,
unmenschlich. Ça vient du fait que la langue des scientifiques est souvent peu accessible.
Und wir funktionieren zu, je nach wissenschaftlichem Standpunkt, zu bis zu 90% durch Emotionen. Und wenn man
Emotionen aus einer Sprache weglässt, versteht das nicht mehr. À travers des émotions.
Und ich habe die Emotionen wieder in die Sprache zurückgebracht.
J'ai essayé de réintroduire ces émotions dans le langage.
Gewesen, weil ich seit 25 Jahren Waldführung mache.
Und die Leute, je gère des forêts depuis 25 ans.
Die Leute gelangweilt waren.
Et je voyais tout de suite, quand j'expliquais ça aux gens, à quel moment les gens s'ennuyaient.
Das ist langweilig, das mag keiner hören. Und ich habe die Führung einfach emotionaler gestaltet. So,
et donc
dass
j'ai essayé de rendre mes visites de forêt plus émotionnelles.
Mit dem Herzen versteht.
Sans s'adresser au cœur des gens.
Es hören alle zu, es nehmen alle die richtigen Informationen nach Hause.
Et donc je me suis rendu compte qu'ils en retiraient quand même ce que je voulais.
Und ja, und das habe ich dann irgendwann mal in Buchform gebracht.
Aber j'ai essayé de mettre ça sous forme de livre.
Weil meine Frau gesagt hat, Mensch, schreib das doch mal auf.
Parce que ma femme m'avait dit, mais allez, écris-le ce livre, enfin.
Et vous avez eu raison de le faire. Est-ce que les Allemands ont une relation très émotionnelle, justement, avec leur forêt par rapport aux autres peuples de la planète?
So heißt das immer. Und das ist
c'est
ein
ce qu'on
Bestseller,
dit toujours.
Erklärt man ja genau wie die Wettervorhersage, am besten immer hinterher.
Oui. C'est comme la météo, on explique toujours ça après coup.
Und hinterher hat man natürlich gesagt, ja klar, das
oui, après coup, on a dit, oui, bien sûr, l'Allemagne, le rapport à la forêt, etc., les Allemands.
Das ist ein bisschen verrückt mit den Märchen und mit diesen ganzen Dingen.
Oui, je crois que c'est très exagéré.
Es funktioniert weltweit. Egal ob in China oder in Brasilien.
L'intérêt pour les arbres est mondial, que ce soit en Chine, au Canada ou ailleurs.
Jeder Mensch eine besondere Beziehung zum Wald hat.
En fait, je crois que tout un chacun a un rapport particulier avec les arbres. Ce n'est pas un phénomène local.
Quelle est la caractéristique de la forêt dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, Peter Wollenben, en Allemagne, donc près de Cologne?
Der Wald funktioniert eigentlich so, oder ist auch so aufgebaut wie die Wälder Nord- und Mittelfrankreichs.
C'est une forêt comparable à celle du Nord de la France, par exemple.
Nämlich Laubwälder, alte
Laubwälder.
Das ist unser vorherrschendes Ökosystem.
Donc, es ist un écosystème préexistant,
von Buchen und auch ein paar Eichen,
composé essentiellement de hêtres et de chênes.
Und diese ganzen Phänomene, espèces, die ich im Buch beschreibe, die kann man aber nur in ungestörten
Et tous les phénomènes qui sont décrits dans mon livre ne peuvent être observés que dans des forêts qu'on laisse tranquilles.
Nicht, dass
la forêt fonctionne comme un système social.
Ich habe zum Beispiel auch einen Ofen zu Hause, da verbrenne ich Baumknochen.
Oui, par exemple, j'ai un poêle chez moi dans lequel je brûle. Was verbrennen Sie da?
Ich verbrenne dort Baumknochen, das ist Holz.
Ah oui, des nœuds de bois. Oui,
das heißt also, ich lasse auch Bäume fällen, auch für meinen eigenen Bedarf.
Donc je fais couper des arbres aussi pour mes propres besoins.
Aber ich finde, wir sollten Gebiete haben, in denen Bäume wild leben
Mais
dürfen.
Il faudrait préserver des espaces où les arbres peuvent vivre en liberté.
Die ganzen tollen Prozesse, die ganzen Sozialeigenschaften
Car tous ces processus extraordinaires, leurs capacités sociales, ça, ne peuvent se développer que lorsqu'ils vivent en liberté.
C'est quoi une forêt en bonne santé, au fond, aujourd'hui, Peter Wollenben? Et est-ce que l'Europe, d'ailleurs, possède des forêts en bonne santé?
Oui,
l'Europe possède des forêts en bonne santé, mais elles ne sont ni en Allemagne ni en France. Il y en a en Roumanie, par exemple.
Gesunde Wälder sind Wälder, die der Mensch
une forêt en bonne santé est une forêt que l'homme n'a pas trop dérangée.
In Frankreich als in Deutschland waren das
Mais en France
Römer,
comme en Allemagne, depuis l'époque des Romains, on est beaucoup intervenu dans les forêts.
Viel zu wenig alte Bäume. Also,
nous Bäume, avons trop peu d'arbres âgés.
Unsere Wälder, kann man sagen, sind bevölkert, wenn man das auf menschliche
On peut dire que nos forêts sont peuplées, si on peut dire.
Wie mit nur 20-30-Jährigen.
De gens qui auraient entre 20 et 30 ans.
Oui.
La pyramide des âges n'est pas équilibrée.
C'est ça. C'est le problème d'ailleurs peut-être dans cette relation entre les hommes et les arbres. C'est la lenteur qui caractérise avant tout la croissance des arbres. Parce que les humains n'attendent pas évidemment que l'arbre aille à son terme parce qu'il faut attendre des centaines d'années. Hein.
Genau, das ist es.
C'est exactement le
problème. Baumjugend zum Beispiel dauert 200-300 Jahre. Eine Baumjugend.
Voilà, la jeunesse d'un arbre, c'est 200 ou 300 ans.
Dann können Bäume erst erwachsen werden.
C'est seulement après que les arbres deviennent adultes.
Und das Dumme ist, in Zeiten, wo Rendite wichtig ist.
Et ce qui est idiot, c'est qu'à des époques où la rentabilité est importante,
bis ein Baum gefällt wird, nur noch 70 Jahre Zeit.
On attend qu'en moyenne 70 ans avant de couper un arbre.
Und damit nehmen wir den Bäumen ihre natürliche Entwicklungsmöglichkeit.
Et donc on prive les arbres de leur développement naturel.
Ça veut dire, alors ça vous l'expliquez très très bien, que les jeunes arbres, donc les juvéniles, doivent attendre parfois 200 ans sous leur mère avant de pouvoir s'exprimer enfin un jour et accéder vraiment à la photosynthèse.
Das ist übrigens weltweit gleich. Das ist kein
c'est pareil dans le monde entier.
Mitteleuropa, das ist in Brasilien nicht anders.
C'est pareil en Europe centrale, au Brésil.
Und das ist dieses lange Warten, das ist gefährlich für kleine Bäume.
Cette longue attente est dangereuse pour les arbres.
Die Überwurzelverwachsung mit den Mutterbäumen.
Et cet entrelacement des racines avec celles de l'arbre mère est souvent détruit.
Ja, die werden regelrecht gestillt wie Säugetiere. Und man kann
Les arbres sont allaités, pour ainsi dire, comme des mammifères.
Jetzt kann man sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Oui, on peut dire, c'est un peu tiré par les cheveux.
Sehr vermenschlicht.
C'est trop anthropomorphisé.
Aber das ist eine Forschung der Universität von Vancouver. Dass
il y a eu une étude de l'Université de Vancouver qui montre que les arbres mères reconnaissent les racines de leurs rejetons.
Und die dann gezielt mit Zuckerlösung unterstützen.
Et qu'elles leur fournissent très volontairement des solutions de glucose.
Il y a une question de Patrice sur franceinter.fr qui nous demande ceci. Comment peut-on expliquer que des arbres grandissent beaucoup plus vite ou plus haut que d'autres? Alors, qu'est-ce qui explique la différence de croissance selon les arbres?
Wenn es Bäume, also ich gehe mal davon aus, dass es um einen Vergleich Bäume derselben Art geht.
Partons du principe qu'il s'agit de comparaison entre des arbres de la même espèce.
Dann wachsen Bäume umso höher, je wohler sie sich fühlen.
Les arbres poussent d'autant plus haut qu'ils se sentent bien.
Also wenn sie in einem intakten Familienverband leben und man
si
kann das tatsächlich
dans
so
un contexte familial équilibré et heureux,
dann werden die Bäume deutlich höher als wenn sie für sich allein
sind. Ces arbres vont pousser de façon beaucoup plus satisfaisante et plus rapide.
Das ist vielleicht so ein bisschen auf menschliche Eigenschaften übertragen, so wie wenn ein Kind auf der Straße aufwächst oder
c'est,
in einer intakten Familie.
Exactement la même différence entre un enfant des rues et un enfant qui vit dans un milieu familial sain.
Sauf que, est-ce que le jeune arbre grandit plus vite ou au contraire, c'est l'arbre âgé qui a une croissance plus rapide?
Ja, also ohne Familie wächst ein kleiner Baum viel, viel schneller und wir verwechseln immer
un jeune arbre sans famille pousse beaucoup plus vite, en fait.
Wir verwechseln Geschwindigkeit mit
Mais
Gesundheit.
Mais il faut pas confondre vitesse et santé.
Und ein Baum, der schnell wächst, wird nicht alt.
Voilà, un arbre qui pousse vite ne fera pas de vieux os, si on peut dire.
Ouais. Peter Vollebaine, est-ce que vous savez combien d'arbres ont été abattus à cause du succès de votre livre?
Das ist eine Frage, die ich gefürchtet habe.
Je craignais cette question.
Nein, also genauso wie ich mit Holz heize, so lese ich auch gerne Papierbücher.
Oui, de la même façon que je consomme du bois de chauffage, j'aime bien lire des livres papier
woher
aussi.
Woher kommt das Papier? Und mais d'où vient le papier? Es ist halt schön, wenn das Papier aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern stammt.
C'est évidemment beaucoup mieux que si le papier vient de forêts gérées de façon écologique.
Auch die Menschen haben Bedürfnisse und können
les hommes aussi ont des besoins. Et c'est...
Ich wünsche mir nur, dass das in ein besseres Gleichgewicht kommt.
Je souhaiterais simplement que cela reste dans un équilibre plus satisfaisant.
Et vous êtes attentif aux traductions qui sont faites justement avec les différents éditeurs pour savoir si le papier utilisé était issu de forêts écologiques ou pas?
Ich versuche das. Ich bin kein Spezialist.
Je ne suis pas spécialiste de l'imprimerie.
Ich nehme das gerne als Anregung mit.
Mais je le suggère volontiers.
Allez, Peter Vollebaine, vous êtes notre invité cet après-midi. On se retrouve dans un instant après un autre auteur qui lui aussi a vendu beaucoup de livres cette année, c'est Petit Pays, Gaël Faye. Et il chante également, vous pourrez d'ailleurs le retrouver ce soir chez Laure Adler dans L'Heure Bleue à 20h sur France Inter. On l'écoute.
Warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand?
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya Warapfunwe ni wapfuye Waragowe ni wagoka Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya
Un soir d'amertume entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunwe ni wapfuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu ris, je ris. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays, Gaël Faye, que vous retrouverez donc ce soir dans l'heure bleue à 20h sur Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Peter Volleben est donc notre invité à l'occasion de la traduction en français de son livre La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. C'est aux éditions Les Arènes avec Bernard Mangiande pour la traduction en français de cette discussion. Dites-nous justement, Peter Volleben, ce qu'est un arbre d'abord, la définition toute simple. C'est juste un tronc avec des branches, un arbre? C'est aussi simple que ça ou pas?
Wir wissen nicht genau, was ein Baum
ist. On ne sait pas exactement ce qu'est un arbre.
Ah oui?
Zum Beispiel, wenn wir einen Baum fällen.
Lorsque nous coupons un arbre, par exemple, et qu'un nouveau tronc pousse de la vieille souche, est-ce un nouvel arbre?
Nous
dirions plutôt non, ce n'est pas un nouvel arbre. Il est possible qu'un arbre stocke ses souvenirs dans ses racines. Nous savons que les arbres possèdent dans leurs racines des structures analogues à celles d'un cerveau. Et qu'il s'y joue des processus analogues.
Super spannend und möglicherweise auch nach dem Sitz der Erinnerung.
C'est très passionnant et il est possible aussi qu'on y trouve dans ces systèmes racinaires le siège du souvenir.
Et c'est pour ça qu'on parlait de cerveau tout à l'heure et que les souches d'arbres pourraient faire office justement, si vraiment on extrapole, il faut faire très attention à ce qu'on dit, de cerveau.
C'est possible, mais c'est de la spéculation.
Les
chercheurs qui sont spécialisés dans l'étude des racines ces chercheurs ont été très critiqués par leurs collègues.
Donc il faut avancer encore dans les recherches. Justement, c'est ce problème de lenteur aussi qui fait qu'on connaît mal le fonctionnement de cette communauté de la forêt, Peter Volleben.
Ja, genau.
Oui, c'est tout à fait ça.
Elektrische Signale laufen bei Bäumen maximal mit einem Zentimeter pro Sekunde.
Les informations électriques circulent à vitesse maximale d'un centimètre par seconde dans les arbres.
Extrem langsam.
Donc les arbres réagissent de façon très lente.
Deswegen sind sie auch für die Forschung nicht so sehr spannend.
Donc ils ne sont pas très passionnants pour la recherche scientifique de ce point de vue-là.
Mittlerweile wissen wir zum Beispiel, dass Bäume sogar zählen können.
Mais nous savons maintenant que les arbres peuvent compter. Par exemple.
Zum Beispiel jetzt im Frühling die warmen Tage über 20 Grad.
Par exemple, ils peuvent compter les journées où la température au printemps dépasse les 20 degrés.
Ça, damit sie nicht zu früh austreiben.
Afin qu'ils ne débourrent pas trop tôt, qu'ils ne commencent pas à faire leurs feuilles trop tôt.
Starker Frost hinten dran kommen.
Au cas où une gelée surviendrait.
Also das ist starke Forschung, nur wo merken sich die Bäume das?
Mais comment les arbres font-ils pour savoir ça?
Die Frage kann ich leider auch nicht beantworten.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à cette question.
Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'horloge interne aussi pour les arbres? Ça, on connaît bien ce phénomène quand même par rapport au jour et à la nuit. On sait que les plantes réagissent aussi avec un cycle assez régulier.
C'est un réflexe intéressant qu'ont les hommes. De s'imaginer que tout se passe de façon automatique dans la nature. Et ça, ça vient de l'époque des Lumières.
Dort hat man auch Tiere als Maschine gesehen.
Hein, à l'époque, on voyait les animaux comme des Maschinen, par exemple.
Der französische Forscher Claude Bernard.
Mm-hmm. Claude Bernard, par exemple.
Hunde aufgeschnitten, lebendig.
Hein, a disséqué des chiens vivants.
Hat das Schreien der Hunde als Quietschen einer schlecht geölten Maschine beschrieben.
Ouais, il a décrit les hurlements des chiens, à ce moment-là, comme les grincements d'une machine mal lubrifiée.
Und das haben wir bis heute auf Pflanzen übertragen.
Et ça, on l'a transposé sur les plantes, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui.
Wenn wir den Menschen in seine chemischen Abläufe zerlegen, ist er auch nur eine Maschine.
Hein, si on découpe l'homme, pour ainsi dire, en ses processus chimiques, ce n'est après tout qu'une machine aussi.
Mais on a aussi fait des expériences, et Mendel par exemple, hein, qui enfermait des plantes dans l'obscurité et qui voyait bien quand même que les fleurs réapparaissaient dans un cycle régulier aussi de processus biologiques.
Ja, also da passiert viel mehr. Also Pflanzen
il se passe beaucoup plus de choses dans le règne végétal. Les plantes peuvent prendre des décisions de façon active.
Wenn ein Baum eine heftige Dürre erleidet,
an einem lorsqu'un arbre souffre d'une sécheresse sévère, par exemple,
reißt das Holz innen drin und das tut dem Baum
son bois se fissure à l'intérieur et ça lui fait mal à l'arbre.
Und er lernt aus den Schmerzen, sich künftig das Wasser anders einzuteilen.
Voilà, et du coup, à travers cette douleur, à cause de cette douleur, il apprend à gérer autrement ses réserves d'eau à l'avenir.
Und zwar ein halbes Jahr später im nächsten Frühling.
Six mois plus tard, au printemps suivant.
Der Baum merkt sich das und ändert seine
l'arbre a compris ça et il va changer sa stratégie.
L'arbre ne pousse pas de cris, Peter Jolleben.
Auch das weiß man nicht.
Ça non plus, on ne sait pas.
Bäume kann man schlecht ins Labor setzen, deswegen hat man das mit Getreide gemacht.
Oui, on peut difficilement mettre des arbres dans un laboratoire, donc on a étudié ça sur les céréales.
Und man weiß, dass Getreide mit den Wurzeln bei 220 Hertz knackt.
On sait par exemple que les céréales émettent des craquements sur une longueur d'onde de 220 Hz.
Jetzt kann das natürlich sein, sowas wie wenn wir mit den Fingern knacken.
Das ça ist peut auch ressembler à ce que nous faisons nous quand nous faisons craquer nos doigts. Mais
aber man hat erstaunlicherweise festgestellt, dass
on a constaté avec étonnement
auf diese
que les racines de ces espèces
Die Wurzeln der Artgenossen richten sich auf diese Knackgeräusche aus.
Oui, que les racines de leurs congénères de la même espèce se déterminent par rapport à ces craquements.
Also es scheint tatsächlich
se dirige aussi dans le sol grâce à ces.
Es scheint auch eine akustische Kommunikation zu geben, aber da sind
donc
wir
il y aurait comme une communication acoustique entre les végétaux.
Jean nous pose cette question, vous pose cette question. Est-ce que les champignons vivent en symbiose avec les arbres? Alors vous en parlez justement dans votre ouvrage.
Symbiose, ja, das ist aber auch ein sehr technischer Begriff.
La symbiose, oui, mais c'est un concept très technique. C'est un peu une symbiose comme la nôtre avec Internet, pour prendre cette comparaison-là.
Pilze tatsächlich viel mehr sind als nur ein kleiner Helfer der Bäume.
Les champignons sont bien plus qu'un petit auxiliaire des arbres.
Die leiten zum Beispiel gegen Bezahlung Informationen weiter.
Ils leur fournissent, par exemple, ils transmettent de l'information, mais contre rétribution.
Ja, also die bekommen dafür Zucker.
En échange, ils reçoivent du sucre.
Und leiten zum Beispiel Warnungen über Insektenbefall an
Et ils peuvent transmettre, par exemple, des alertes sur l'arrivée d'insectes ravageurs.
Und zwar sowohl chemisch als auch elektrisch.
Et cela de façon aussi bien chimique qu'électrique.
Mmh. C'est-à-dire que les champignons sont capables d'émettre des substances toxiques lorsqu'il y a danger pour l'arbre, justement, qu'ils accompagnent.
Also Pilze können zwei Dinge machen. Es gibt natürlich
Les champignons peuvent faire deux choses.
Ganz viele Arten von Pilzen.
Il y a beaucoup d'espèces de champignons,
bien sûr. Die den Bäumen helfen, die können tatsächlich Tiere töten für die Bäume.
Les champignons qui aident les arbres peuvent tuer des insectes pour les arbres, justement.
C'est aber ça. Aber nicht um die Bäume zu verteidigen.
Mais pas pour défendre les arbres.
Sondern um Stickstoff zu erzeugen.
Mais pour créer du carbone.
Stickstoff, ja. Und zwar ist das dann so ähnlich, als wenn wir Fleisch essen, also Bäume essen.
De la même façon que lorsque nous mangeons de la viande, par exemple.
Indirekt in Notzeiten auch kleine Bodentiere.
Voilà, les champignons que vous comparez donc effectivement au réseau internet de la forêt avec ce maillage, effectivement d'une efficacité redoutable, comme on peut le découvrir dans votre livre. On va écouter l'histoire d'une autre symbiose entre les fourmis et les arbres, par exemple, toujours extrait du film Il était une forêt de Luc Jacquet.
Pour éviter les agressions, certains de ces pionniers vont appeler des animaux à leur secours. Quand l'arbre Cecropia fabrique une nouvelle feuille, il dévoile à sa base ce qui ressemble à s'y méprendre à des œufs de fourmis. L'effet est immédiat. Les fourmis se mettent à ouvrir de petites portes créées par l'arbre tout le long de sa tige. Les fourmis sont désormais chez elles. Elle perce des ouvertures entre chaque étage. Les insectes occupent bientôt Cecropia sur toute sa hauteur. Cecropia peut grandir tranquille. Ses locataires se chargent de sa défense.
Voilà, Cecropia, donc le nom de cet arbre. Arbre fourmi d'ailleurs, hein, on l'appelle également de cette façon. Autre exemple, hein, Peter Volleben, pour montrer aussi les compagnonnages, les collaborations entre les insectes et les arbres. Ils sont nombreux dans la forêt.
Gibt es zum Beispiel Schwitzenkirschen, Zucker an den Blättern aus für Ameisen.
Oui, il y a par exemple les fourmis recueillent du sucre sur les branches des arbres.
Um Ameisen anzulocken und die Ameisen fressen dann Raupen, die sonst Blätter fressen
oui.
würden.
Oui, c'est ça, il s'agit d'attirer les fourmis et les fourmis mangent les chenilles qui sinon pourraient détruire les arbres.
Oder wenn Bäume von Raupen befallen werden,
ou lorsque les arbres sont attaqués justement par
dann
des
chenilles, schmecken die den Speichel der Raupen und wissen, welche Art es ist.
Les fourmis goûtent la salive des chenilles et savent de quelle espèce il s'agit.
Mhm. Können dann gezielt Insekten herbeirufen, die diese Raupen fressen.
Et peuvent attirer des insectes qui vont détruire justement ces chenilles.
Peter Volleben, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour donc de la vie secrète des arbres et cet ouvrage donc qui paraît aux éditions Les Arènes.
J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés. Mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme. Elle tous les week-ends avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène, j'attends Mylène à la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois du jardin. Ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas.
J'attends Mylène, Mickey 3D sur France Inter, Peter Volleben, donc notre invité avec la vie secrète des arbres, Bernard Mangiante pour la traduction. Alors vous vouliez faire une petite correction, Bernard Mangiante, hein, justement au sujet du lien entre les fourmis et les arbres.
Il y avait un mot que je n'avais pas entendu, en fait c'est l'arbre qui sent le goût de la salive des fourmis et qui va donc attirer en conséquence des insectes pour
voilà et des auditeurs détruire les chenilles. Salut la qualité de votre traduction, je voulais vous le dire aussi, il y a pas de raison. Stéphane nous dit toute activité vivante produit des déchets, où sont les rejets des arbres? Peter Volleben.
Ja, eine gute Frage.
Une bonne question.
Ein Elefant auf Toilette geht, das
lorsqu'un éléphant va aux toilettes, comme on dit, qu'est-ce qui se passe?
Bäume haben genauso einen Stoffwechsel.
Et les arbres aussi, bien sûr, ont un métabolisme.
Und die machen ihr großes Geschäft im Herbst.
Et ils font leurs besoins, si on peut dire, à l'automne.
Wenn sie, kurz bevor sie die Blätter abwerfen,
juste avant de se débarrasser de leurs feuilles,
pumpen sie ihr großes Geschäft da rein.
Ils y pompent, entre guillemets, leur déjection.
Ob deswegen die Farbe braun ist, weiß ich nicht.
Alors, je sais pas si c'est pour ça que la couleur en est brune.
Mais oui, bon, pourquoi pas.
Et c'est donc une seule fois par an? Et donc, nur einmal im Jahr.
Ja, ja, also Bäume können gut durchhalten.
Oui, 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 ils peuvent tenir tout ça.
Alors, vous parlez beaucoup du carbone aussi, évidemment, puisque on croit savoir hein, que les arbres sont capables de capturer énormément de quantités de carbone. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que devient le carbone ensuite?
Was wird daraus dann?
Daraus wird irgendwann Kohle.
À un moment ou un autre, ça devient du charbon.
Also Wälder sind keine Kreisläufe für Kohlenstoff.
Les forêts ne sont pas le lieu d'un cycle.
Sondern sie sind Kohlenstoffspeicher. Und
ils stockent le carbone.
Deswegen ist es auch keine gute Idee, Öl oder Kohle durch Holz zu ersetzen.
C'est pour cela que ce n'est pas une bonne idée de remplacer le pétrole par du bois.
Weil es für das Klima egal ist.
Parce que pour le climat, ça revient au même.
Alors justement, le lien entre les phénomènes météo futurs, le climat en général, ça c'est une question d'Hélène qui est arrivée sur franceinter.fr. Est-ce que les végétaux sont capables de s'adapter justement à des phénomènes météo futurs? Et puis on va élargir justement sur la question climatique.
Überstehen.
Also Wälder können den Klimawandel, zumindest den, der aktuell prognostiziert wird, gut überstehen.
Les arbres pourront sans doute résister au changement climatique, en tout cas tel qu'il est pronostiqué pour l'instant.
Wenn ein Wald nicht bewirtschaftet wird, kann er sich im Sommer im Durchschnitt um 3 Grad herunterkühlen.
Lorsqu'une forêt n'est pas exploitée, elle peut baisser sa température ambiante de 3 degrés en moyenne durant l'été.
Im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern.
En comparaison avec une forêt qui est exploitée.
Das heißt, je weniger wir die Wälder stören, desto besser halten
moins
die
nous dérangeons, moins nous intervenons dans les forêts, mieux c'est.
Das hängt damit zusammen, dass Bäume zusammen schwitzen.
Et c'est lié au fait que les arbres transpirent lorsqu'ils sont regroupés.
Ein ausgewachsener Baum bis zu 500 Liter Wasser pro Tag.
Un arbre adulte peut rejeter jusqu'à 500 litres d'eau par jour.
Und wenn sehr viele Bäume zusammenschwitzen, dann kühlt das genauso wie wenn
lorsque beaucoup d'arbres rassemblés transpirent tous, ça dégage évidemment beaucoup d'humidité, donc ça refroidit la température.
Und wenn wir viele Bäume fällen in einem Wald,
lorsque nous coupons beaucoup d'arbres dans une forêt,
kommt da sehr viel Sonne auf den Boden und der Wald wird warm und trocken.
Et cela réchauffe le sol et la forêt en général.
Alors justement, la promiscuité des arbres au sein d'une forêt, est-ce que c'est un problème réellement pour l'accès tout simplement à la lumière?
Ja, wir Menschen sind ja Augentiere.
Oui, les hommes sont très focalisés sur la vue.
Und wenn es unten am Waldboden braun ist, gefällt uns das nicht.
Et lorsqu'on voit le sol brun et sombre dans une forêt, ça nous plaît pas.
Aber in einem europäischen Urwald ist es am Boden ganz dunkel.
Mais dans une forêt primaire de type européen, le sol est très sombre. Il fait très sombre.
Und wir denken, ach, der Wald ist artenarm.
Oui, et nous, quand nous voyons ça, nous disons, ah, cette forêt est très pauvre en espèces.
In Wirklichkeit leben in einem mitteleuropäischen Buchenurwald mindestens 10.000 Tierarten.
Mais en réalité, dans ce sous-bois européen, il y a à peu près 10.000 espèces animales qui vivent.
Die meisten interessieren uns nicht, weil sie so klein und hässlich sind.
La plupart ne nous intéressent pas parce qu'elles sont minuscules et très vilaines en général.
Mm-hmm. Wir schauen dann lieber nach Borneo auf die Orang-Outans.
On préfère regarder les orang-outans de Borneo.
Ouais, c'est ça. Vous défendez vos forêts évidemment européennes. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous dites que finalement les arbres doivent apprendre à vivre en communauté en respectant une sorte de règlement intérieur. On voit cette verticalité qui caractérise justement les forêts. Dès qu'il y a un problème au fond sur la structure même de l'arbre, il faut que cet organisme apprenne à se reverticaliser.
Bäume müssen gerade wachsen, damit sie später Stürme gut abfedern können.
Les arbres doivent pousser bien verticaux pour pouvoir résister plus tard aux tempêtes.
Dazu werden die kleinen Bäume tatsächlich, das ist auch ein Fachausdruck, von den Mutterbäumen erzogen.
Et les jeunes arbres sont littéralement éduqués par leur mère. C'est une expression scientifique.
Ganz starke Lichtdrosselung, also durch einen ganz tiefen Schatten.
Oui, qu'ils les soumettent à une ombre très épaisse.
Und jeder Baum, der nicht gerade wächst und sich nach dem Licht streckt, stirbt, weil er überwachsen wird.
Tout arbre qui ne pousse pas droit et ne se dirige pas vers la lumière meurt.
C'est und das ist vielleicht ein bisschen strenger als unsere Schulen.
Ouais. C'est un peu plus sévère que nos écoles.
C'est ça, d'où l'intérêt de se remettre dans le droit chemin, justement. Alors, vous parlez de l'amitié. Là aussi, vous employez des mots qui peuvent paraître un peu surprenants pour les arbres. Et pourtant, dans le cas d'arbres malades, par exemple, vous dites bien à quel point la communauté autour de l'arbre malade fait en sorte d'apporter les nutriments nécessaires pour renforcer la pathologie et l'arbre qui justement est déficient.
Je crois qu'à l'école, on nous a appris l'évolution d'une manière erronée.
Dass nur der Stärkste überlebt.
Que ce n'est que le plus fort qui survit.
Und das sehen wir aktuell auch ein bisschen in der Politik.
Et c'est ce qu'on voit actuellement en politique aussi.
Und ein Baum weiß aber instinktiv, er ist ein einziger Baum ist kein Wald.
Mais un arbre le sait de façon instinctive, un arbre tout seul, c'est pas une forêt.
Er braucht die anderen, um zu überleben, und deswegen unterstützt er auch alle anderen.
Il a besoin des autres pour survivre, et donc il aide aussi les autres.
Und selbst alte Baumstümpfe, die schon même seit
Jahrhunderten souches, gefällt sind, qui sont âgés de plusieurs siècles,
werden noch am Leben gehalten,
sont maintenus en vie grâce à l'aide des autres arbres.
Und wir Menschen fragen immer, warum macht das ein Wald?
Et oder nous demandons pourquoi une forêt fait ça.
Ouais. Aber Bäume machen das bedingungslos, das gibt es eben auch. Ouais.
Mais les arbres font ça sans condition, ouais. Sans contrepartie.
Peter, pour terminer très rapidement, quel est le plus vieil arbre, en tout cas identifié aujourd'hui sur notre planète? Quel âge a-t-il?
Wahrscheinlich eine Fichte in Mittelschweden. Und diese Fichte ist knapp 10.000 Jahre alt.
Probablement un sapin en Suède qui est âgé à peu près 10.000 ans.
Die ist nicht viel höher als 5 Meter und armdick und die hat man übersehen.
Ouais. À peu près 5 mètres de haut, pas plus, mais on... ouais. Voilà.
Merci infiniment en tout cas pour votre venue aujourd'hui dans La Tête au Carré. Donc ce livre, La vie secrète des arbres, traduit en français et il arrive donc aux éditions Les Arènes. Je vous souhaite le même succès dans notre pays que chez vous en Allemagne avec plus de 800 000 exemplaires vendus et partout ailleurs dans le monde. Et puis merci à vous Bernard Mangiante pour la traduction de cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup.
Guten merci beaucoup.
La chronique de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi? Du téléphone portable?
Oui Mathieu, alors il fut un temps où le monde se divisait en deux catégories, ceux qui avaient un pistolet chargé et ceux qui creusaient. Puis la dichotomie a changé d'air avec les fans du Mac d'un côté et les adeptes du PC de l'autre. Et aujourd'hui, comme l'a souligné une étude britannique publiée en 2016, Homo sapiens est sur le point de se scinder en deux sous-espèces, ceux qui possèdent un smartphone fonctionnant sous Android et ceux qui ont un iPhone.
Sauf que tout le monde n'a pas de téléphone portable quand même encore.
C'est une bonne objection Mathieu, certains individus ne se promènent pas avec ce genre d'appareil, mais il s'agit de spécimens voués à disparaître, même dans les pays les moins riches de la planète. Selon l'Union internationale des télécommunications, en 2016, il y avait ainsi sur Terre 7,377 milliards d'abonnements de téléphonie mobile dans le monde pour 7,4 milliards d'humains. Bien sûr, certains grands malades disposent de plusieurs portables, mais on peut considérer comme inéluctable l'équipement prochain de toute l'humanité. Alors, pour en revenir à cette étude, ces auteurs sont partis du principe que les fonctionnalités sont pratiquement les mêmes entre les différents portables. Par conséquent, ils se sont demandé pourquoi nous choisissions telle marque plutôt que telle autre et ce que cela disait de nous, étant donné que nous confions à notre portable tellement d'informations sur notre vie qu'il en devient une partie de notre identité.
Comment ils ont procédé, ces chercheurs, pour leur étude?
Alors, ils ont soumis 529 personnes à divers questionnaires pour cerner leur statut socio-économique, leur personnalité et leur attachement à cet engin qui fait retentir le thème musical de Dark Vador « Quand maman appelle ». Premier enseignement sur ce demi-millier de participants âgés de 15 à 74 ans, 92,3% utilisaient soit Android, soit un iPhone, sans que la situation économique personnelle influe sur le choix de manière significative. Second résultat, les propriétaires d'iPhone avaient nettement plus de chances d'être des femmes que des hommes et ils voyaient dans leur portable la marque d'un véritable statut. Les sujets qui avaient, eux, opté pour un téléphone sous Android étaient en moyenne plus âgés. Et ils obtenaient aussi de meilleurs scores à un test mesurant l'honnêteté et l'humilité, un résultat caractéristique des personnes qui, je cite, « évitent de manipuler les autres pour leur intérêt personnel, sont peu tentés de violer les règles, sont peu intéressés par la richesse et le luxe ». Qu'est-ce que vous avez comme téléphone, Mathieu?
Quoi. Ben, un iPhone
Voilà, tout s'explique.
Ouais,
pour terminer, les auteurs de l'étude ont inversé le processus. Ils ont interrogé 200 individus et ils ont essayé de deviner quel type de portable ils détenaient en fonction de leur personnalité. Et ils ont vu juste 7 fois sur 10.
Et vous en saurez plus en retrouvant cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu? Un Indien, je crois.
Alors, cette semaine, un dossier sensible sur le génome des peuples premiers et aussi un portrait de Richard Leakey, qui est un des plus grands paléo-anthropologues vivants.
Et ce sera donc dans quelques minutes à peine dans les kiosques. Merci beaucoup, Pierre Barthélémy, et à la semaine prochaine.